Bernard Hébron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la gestion diversifiée chez Invesco Asset Management. On va parler avec vous, bien sûr, de marché et de perspectives sur ces marchés. Comment vous abordez cette fin d'année, même si on n'est pas tout à fait dans l'hiver, même s'il se rapproche? On a eu une période où les investisseurs étaient assez confiants, où ils avaient retrouvé confiance en quelque sorte. Où en est-on aujourd'hui?
Alors, la confiance, elle a été marquée pour une fois, c'est pas toujours le cas, mais elle a été marquée pour une fois par un coup de départ assez flamboyant. C'était le 29 juin, très précisément, donc on va dire le tout début du troisième trimestre, marqué par un discours de Monsieur Draghi, qui a expliqué qu'il ferait tout ce qu'il faut pour sauver l'euro, en gros, et pour permettre que la monnaie unique subsiste. Alors qu'à ce moment-là, dans la première moitié de l'année 2012, il y avait quand même des doutes assez sérieux sur la pérennité de l'euro. Le 29 juin, Mario Draghi dit que tous les moyens seront mis en œuvre pour que ça continue. Et immédiatement, dès la première séance de bourse, ça a redonné une confiance. On a eu beaucoup, beaucoup de retours de capitaux, en particulier sur les actions, mais sur toutes les classes d'actifs. Et c'est une espèce de regain de confiance qui a duré pendant tout le troisième trimestre, en fait. Et il se trouve qu'au début du quatrième trimestre, ça coïncide avec le début de la publication des résultats des sociétés américaines puis européennes. Et puis là, tout de suite, on revient un peu sur Terre. On passe à autre chose que les discours des banques centrales et que les injections de liquidités. Et on passe, comment se débrouillent les sociétés cotées dans ce contexte-là? Et au point où on en est maintenant des résultats, on a à peu près un tiers des sociétés américaines qui ont publié les résultats. Il s'avère que ce serait le premier trimestre de baisse des résultats depuis 2009.
Donc c'est significatif et effectivement ça marque une rupture en tout cas.
Voilà, ça marque une rupture. On avait classiquement, on avait depuis à peu près 3 ans un schéma qui était toujours le même, des nouvelles macroéconomiques qui étaient globalement mauvaises un petit peu partout dans le monde, mais en face de ça, des sociétés qui avaient des bénéfices solides en croissance, et puis des banques centrales toujours là pour injecter de la liquidité. Aujourd'hui, les nouvelles macroéconomiques mauvaises, elles continuent. Sauf peut-être dans une région qui sont les États-Unis. En revanche, l'autre soutien massif des marchés, la bonne santé des entreprises, c'est en train de devenir plus compliqué. Ne reste plus que les injections de liquidités des banques centrales. C'est important, c'est un gros morceau de soutien. En revanche, c'est le seul pour le moment, donc ça devient plus compliqué.
Ça veut dire quelque part, l'environnement s'est peut-être effectivement amélioré, il y a peut-être eu un certain nombre d'éléments positifs. Vous parliez des États-Unis, on a vu des sujets, notamment des questions sur l'immobilier, des statistiques un peu meilleures, on a vu les consommateurs américains aussi. Donc il y a eu des éléments positifs, mais dans un environnement global qui n'est pas encore revenu, en tout cas, à une vraie croissance.
Alors voilà, il y a une thématique de marché qui fonctionne depuis un petit moment, c'est les valeurs domestiques américaines contre les exportatrices et contre tout ce qui est le plus cyclique. Donc on voit bien un petit peu partout dans le monde les valeurs les plus cycliques, à commencer par les minières, mais tout ce qui est un petit peu très très en lien avec le cycle, en particulier des émergents ou le cycle mondial qui est très très attaqué. Et puis ce qui est non cyclique, qui tient très bien, voire qui continue à progresser. C'est le cas typiquement de valeurs non cycliques, de consommation, de santé, etc. Ou de choses très domestiques américaines. L'immobilier américain, vous l'avez dit, il montre des signes de vigueur. On a l'impression que le trou sans fond des prix de l'immobilier résidentiel aux États-Unis, ça y est, on a un petit peu touché le fond et qu'on commence à rebondir assez timidement en termes de prix un petit peu, mais surtout en termes d'activité et de redémarrage de la construction. C'est timide, mais ça fait plusieurs trimestres que ça se confirme. Au même moment où on a l'impression qu'en Europe, c'est là où ça commence à craquer sur le résidentiel. Donc les États-Unis, de ce point de vue-là, semblent un petit peu en opposition de phase et ce serait à peu près la seule bonne nouvelle au niveau macroéconomique.
Alors ça serait simple si c'était, on va dire, 100% le cas, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand les investisseurs parlent des États-Unis, effectivement, ils regardent les prochaines échéances et on retrouve des sujets politiques, des sujets économiques, ce fameux mur, ce fiscal cliff, effectivement, ce mur fiscal qui arrive et des questions toujours sur la dette américaine. Donc on revient avec un environnement certes plus positif, mais avec des interrogations, puisque là, c'est le politique qui à nouveau revient.
Oui, alors on a eu beaucoup d'élections dans les pays européens sur les derniers mois. Là maintenant, c'est au tour des États-Unis. Au moment où on parle, les sondages sont très très partagés. Je crois que c'est quasiment égalité dans les sondages. Quel que soit le gagnant, il faudra qu'effectivement il traite cette falaise fiscale fin décembre. On ne connaît pas trop trop l'issue, mais on aura forcément un compromis d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne peut pas se permettre d'amputer 4 à 5% du PIB américain comme ça du jour au lendemain. Je pense qu'aucun président d'aucun côté, que ce soit des deux partis, ait envie de faire ça. Maintenant, reste à savoir quels vont être les secteurs peut-être favorisés et les secteurs un peu pénalisés par les choix qu'il y aura à faire.
C'est effectivement ça qui va dominer les prochaines semaines, les questions politiques, les questions de croissance économique, puisqu'on pourra parler de l'Europe aussi. En Europe, il y a des plans de rigueur. On peut parler de la France, il y a un plan de rigueur qui est annoncé, même s'il ne porte pas ce nom-là. On voit que dans d'autres pays, effectivement, la situation en Espagne est difficile sur le plan de l'emploi, bien entendu. On a cet environnement qui reste quand même ténu et on n'a pas d'espoir de croissance qui revienne là dans les 6 prochains mois.
Non, dans les 6 prochains mois, c'est un peu compliqué, voire au-delà, d'autant plus qu'on a ce ralentissement qui continue à se propager un petit peu, en particulier en Asie, hein, qui était quand même jusqu'à présent un des moteurs de la croissance mondiale. On voit très bien que le moteur en question commence à avoir des ratées assez sérieuses. Et je dirais qu'au niveau politique, on a vraiment les deux pôles de croissance mondiale qui sont les États-Unis d'une part, la Chine d'autre part, qui, au niveau des politiques monétaires en particulier, mettent beaucoup de choses en œuvre. Et la Chine a commencé très récemment à réinjecter des liquidités dans le système, parce qu'elle voit que ça commence à freiner un peu trop fort, peut-être à son goût. Donc réinjection de liquidités de ce côté-là, et puis politique monétaire toujours très accommodante, tant qu'on a le gouverneur actuel de la Réserve fédérale, puisqu'on sait que, selon toute probabilité, M. Bernanke termine son mandat fin 2013, et que donc on aura un successeur dont on ne connaît pas du tout les options pour la suite, puisque éventuellement il pourrait être nommé par un président différent, une majorité différente, et donc éventuellement avec des choix monétaires peut-être un tout petit peu moins accommodants que ceux qu'on a aujourd'hui.
Du côté des perspectives et de la gestion, justement, on voit que les banquiers centraux ont incité ou ont fait en sorte que les investisseurs aillent prendre des actifs plus risqués, donc notamment les actions. Quand on regarde les volumes, c'est loin d'être réussi. En termes de gestion, justement, et de diversification, qu'est-ce que vous prenez, je dirais, pour les prochains mois pour naviguer, en quelque sorte, dans cet environnement qui reste encore un peu compliqué?
Ok, on attaque le dernier trimestre avec des portefeuilles qui sont investis de manière assez prudente en fait. C'est un petit peu dégagé des marchés actions en fin de troisième trimestre, début de quatrième trimestre, pour une raison déjà de simple gestion en bon père de famille, c'est que ça avait tellement monté au troisième trimestre qu'on a pris un petit peu de bénéfice. Ça, c'est une raison. Deuxièmement, la saison des résultats s'annonçait vraiment, disons, un peu compliquée. Il se trouve qu'elle est vraiment compliquée au point où on est aujourd'hui. Et donc, on préfère prendre un petit peu nos distances. Donc, on reste avec pas mal d'actifs obligataires en portefeuille, diversifiés sur beaucoup de compartiments obligataires, que ce soit émergents, que ce soit de sociétés privées, peut-être un petit peu high yield éventuellement, et quelques emprunts d'État qu'on appelle refuge, hein, qu'ils soient américains, britanniques ou allemands. Mais un petit peu un panier comme ça de placements obligataires. Et en face de ça, des placements actions qui vont être dominés encore par les États-Unis et un petit retour sur les émergents, qui eux ont vraiment eu une traversée du désert qui dure depuis plusieurs années maintenant. Étant donné en particulier ce qu'on commence à voir en Chine, on commence doucement à remettre un petit peu d'investissement actions asiatiques en ce moment depuis quelques semaines.
Merci d'avoir fait le point avec nous, Bernard Hébran. On rappelle que vous êtes donc directeur de la multigestion chez Invesco Asset Management.